Les cours du Collège de France, Marc Hainaut, chaire chant, cordes et gravité.
Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler de la géométrie de l'infini de genre lumière. Alors on lui a donné un nom, Scry ou Scry. Donc je vais écrire en toutes lettres. Et je vais regarder ce qu'on appelle l'infini de genre lumière futur, donc je mets un plus. Bon, ça va s'éclaircir. Et je me place d'abord dans le cadre de Minkowski. Et puis je vous dirai ce qui se passe pour les espaces qui sont asymptotiquement Minkowski. Alors, pour étudier la structure de l'espace à l'infini, dans les coordonnées, donc le Minkowski c'est quoi? D'abord, je vais l'écrire en coordonnées polaires, donc la géométrie de Minkowski. C'est déterminé par la métrique de Minkowski. Et là, je vais faire C égale 1 ici. Donc, je travaille dans l'espace-temps habituel avec C égale 1. Donc, en coordonnées polaires, c'est moins dt carré plus dr carré plus r carré d ce que j'appelle grand oméga carré. Ou ici, c'est d oméga carré. C'est l'élément de surface sur la sphère à deux dimensions, c'est-à-dire dθ carré plus sinus carré θ d phi carré. En termes des angles θ et phi sur la deux sphères. Alors, on aimerait comprendre ce qui se passe quand on va vers l'infini, c'est-à-dire quand R et T sont grands. Alors, pour comprendre ça, c'est pas très commode de le faire en termes des coordonnées de départ T et R, parce qu'il faut prendre des limites où T et R tendent vers l'infini, T ou R tendent vers l'infini. Et donc, ce qu'on va faire, c'est Penrose qui a eu cette idée-là, on va introduire ce qu'on appelle les diagrammes de Penrose, qui s'obtiennent bon, Penrose est un mathématicien anglais qui a beaucoup travaillé sur la relativité générale et qui a eu notamment le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'existence de singularités, sur la structure causale de manière générale de l'espace-temps. Alors, l'idée de ces diagrammes de Penrose, comment ils s'obtiennent, mais c'est en faisant ce qu'on appelle une compactification conforme. À nouveau, c'est un terme qui peut être un peu rébarbatif, de l'espace-temps. En fait, ce que je vais faire, je vais introduire de nouvelles coordonnées dont le domaine de variation est fini, et donc tel que l'infini se trouve à une valeur finie des coordonnées. Ça permet de dessiner des choses au tableau sans devoir courir à l'infini. Donc on peut dessiner l'infini à valeur finie des coordonnées. Et on va le faire de manière à respecter, et je vais expliquer aussi ce que ça veut dire, la structure conforme. Donc on veut que les rayons de lumière restent à 45 degrés. Alors je vais le faire, et puis on va voir qu'effectivement, cette manière de procéder remplit toute une série de bonnes propriétés. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me placer dans des coordonnées de genre lumière. Donc je vais introduire U qui est égal à T moins R, ce qu'on appelle parfois le temps retardé, et puis je vais introduire V qui est T plus R. Et je vais utiliser comme nouvelle coordonnée U, V et les angles. Donc je remplace T et R par U et V. Alors je vous laisse faire le changement de variable, donc T c'est égal à U plus V sur 2, R c'est V moins U sur 2, on substitue ça là-dedans, qu'est-ce qu'on obtient pour le ds carré? Ça c'est de l'algèbre directe, vous allez obtenir moins du dv, donc dv, je vais l'écrire comme ça, plus 1 quart, V moins U au carré, hein, R c'est V moins U demi, donc c'est pour ça qu'on a le 1 quart, D oméga carré. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas gagné grand-chose. Les coordonnées U et V, comme T et R, U et V vont de moins l'infini à plus l'infini. Oui, il faut que R soit positif, donc le domaine de variation de T, c'est moins l'infini plus l'infini. Le domaine de variation de R, c'est 0 à l'infini. Donc, si ça vous intéresse, c'est l'infini. Donc, U et V bon, vont de moins l'infini à plus l'infini. Mais, comme R est positif, il est clair que U est toujours plus petit que V. Donc, U, V, l'infini. Donc ça, c'est le domaine de variation de U et V. Et c'est maintenant que je vais faire une transformation de coordonnées qui ramène le domaine de variation à une valeur finie. Alors, pour être tout à fait précis, je vais poser U égale tangente P. Donc j'introduis une nouvelle coordonnée P par cette relation et une nouvelle coordonnée Q par cette relation. Alors, pourquoi ça satisfait à la propriété que j'ai mentionnée ? C'est que, effectivement, lorsque P va de moins pi demi à plus pi demi, U balaye toute la droite réelle. Pareil pour Q. Mais puisque U doit être inférieur ou égal à V, P doit être inférieur ou égal à Q, ce sont des fonctions monotones croissantes. Donc j'ai P inférieur ou égal à Q, et la borne supérieure c'est pi demi, et la borne inférieure c'est moins pi demi. Donc on ramène l'infini à des valeurs finies de coordonnées. Bon, jusqu'à présent, vous allez dire, est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment gagné quelque chose ? Ah oui, le ds carré, oui, peut-être, je préfère utiliser d sigma carré. Donc l'élément de longueur de Minkowski, je l'appelle d sigma carré parce que ds carré, je vais le réserver pour autre chose plus tard. Bon, c'est juste un nom, hein. Donc l'élément de longueur de Minkowski, je l'appelle d sigma carré, au carré, je l'appelle d sigma carré. Donc, que devient le d sigma carré dans ces nouvelles coordonnées ? Ben, il faut remplacer du en fonction de dp, dv en fonction de dq, ça fait apparaître d1 sur cosinus carré. Donc, je mets ça en évidence. Un quart, parce que c'est le quart qui est ici, que je mets en évidence. Cosinus carré p. 1 sur cosinus carré Q. Puis je vais avoir, bon, puisque j'ai mis un cas, moins 4 dp dq plus. Alors, V c'est tangente Q, U c'est tangente P. Donc si je mets tout au même dénominateur, vous allez avoir du sinus Q cosinus P moins sinus P cosinus Q divisé par cosinus P cosinus Q, c'est-à-dire que vous allez avoir ici le sinus de la différence au carré. Et j'ai 1 sur cosinus carré P sur cosinus carré Q que j'ai mis là. Donc je vais avoir sinus P moins Q au carré d oméga carré. Avec un domaine de variation fini. Et maintenant, je vais faire en quelque sorte la transformation de coordonnées inverse pour me ramener à un élément de longueur où je vois facilement les dérivés, les directions de genre temps, les directions de genre espace. Donc je vais définir grand T comme étant la somme Q plus P et je vais définir grand R comme étant la différence. Alors cette fois-ci, ben vous voyez que le domaine de variation de T et de R, ben la valeur la plus petite, c'est quand P et Q sont en moins pi. Donc P c'est T moins R, facteur 2, mais j'ai mis moins pi ici, donc T moins R. inférieur ou égal à t plus r, inférieur ou égal à pi. Donc, ma métrique dans le plan TR, bon, en chaque point, j'ai évidemment la deux sphères. Et donc, si je fais abstraction des angles, donc, j'ai quelque chose à deux dimensions. Ma métrique, donc, mon espace-temps couvre une portion finie du plan TR, qui est défini par ça. Donc, en particulier, vous voyez que T va être en valeur absolue plus petit que R. Donc, ne peut pas être arbitrairement négatif. Que R est positif, c'est vu ce qui vient de là. Et inférieur à la fois pi moins t et pi plus t. Donc pi moins t, ben, ça vient de là. Et c'est aussi supérieur ou égal à ça. Donc ça, c'est... Oui, d'ici, vous voyez que R est inférieur à T plus P. Donc, enfin, voilà, donc on peut s'amuser et dériver des inégalités. Mais donc, ce qui est important, c'est que si vous substituez ça dans le D sigma carré, vous allez obtenir le DPDQ va vous donner, c'est exactement la même transformation, mais dans l'autre sens, va vous donner du moins DT carré plus D grand R carré. Donc, le D sigma carré, une fois qu'on a fait ça, devient, alors je vais l'écrire comme ceci, psi moins 2 d sigma bar carré, ou psi carré, donc c'est le dénominateur qui est ici, donc c'est 4 cosinus carré p cosinus carré q, et d sigma bar carré, ben c'est ce qui est. C'est donné par ce qui reste, enfin, par ce qui multiplie, par ce qui est dans la parenthèse ici, réécrit dans les coordonnées TR, c'est-à-dire moins dt bar carré plus dr bar carré plus sinus carré r d oméga carré. Et ce qu'on a gagné par rapport à ce qu'il y avait au départ, c'est que maintenant T et R ont un domaine de variation fini. En fait, tout Minkowski, alors je vais d'abord dessiner le diagramme, se retrouve dans un triangle où là on a, bon, grand R égale à 0, c'est la même chose que petit r égale à 0, donc ça c'est l'origine. Donc les valeurs limites la valeur limite, c'est quand t plus r est égal à pi ou t moins r égal à moins pi. Donc, ici, ça va être t est égal à pi moins r. Hein, donc, en fait, les valeurs limites correspondent aux valeurs où p et q atteignent... donc, p et q, c'est des droites à 45 degrés dans mon diagramme. Donc, ça, c'est 45 degrés. Donc, vous voyez que ça va être... Q égale à constante, ça c'est P égale à constante. Donc ceci c'est Q est égal à pi demi. Donc si Q est égal à pi demi, dans ce cas-là, ben, effectivement T est égal à pi moins R, donc c'est une droite comme ça. Le point où les deux, donc ça c'est l'intérieur du triangle, c'est l'image de tout Minkowski. Et les infinis, ben c'est ceci, ça c'est l'origine. Ben, c'est aussi dans Minkowski. Alors on donne un nom particulier au bord de. Bon. Et ceci on l'appelle I0, ceci on l'appelle I, ceci on l'appelle I-, et ça on l'appelle script plus, parce que c'est dans le futur, et ceci on l'appelle script moins. Donc ça s'appelle l'infini de genre lumière future, et ça c'est l'infini de genre lumière passée. Ceci s'appelle l'infini de genre espace, et ça c'est les infinis futurs et passés. Et je voudrais comprendre la structure des bords ici. Et je vais me focaliser. Donc peut-être je donne les coordonnées de I0 en termes de T et de R. Donc I0, c'est Q égale à pi demi. P est égal à moins pi demi. Ça, c'est Q égale à pi demi et P égale à pi demi. Donc P varie comme ça. Ça, c'est les Q égale à constante. C'est droite comme ça. Et ici, c'est l'autre pointe, c'est Q égale à moins pi demi et P égale à moins pi demi. Donc P ne varie pas ici, c'est Q qui varie, et qui va de moins pi demi à plus pi demi. Donc j'ai tout, c'est ce domaine de variation que je représente ici. Hein. Donc je vous laisse éventuellement faire ça comme exercice, de vous assurer que ce que j'ai dessiné correspond bien à ce qu'on obtient à partir de là. Alors, l'intérêt de cette représentation, c'est que les rayons lumineux, donc si radio, donc j'oublie la partie angulaire, donc les rayons lumineux qui restent à angle déterminé, ben, par définition, c'est ce qui annule le ds carré, donc sont tels que dt est égal à dr. Et vous voyez que notre transformation, et donc c'est les droites à 45 degrés. Vous voyez que notre transformation préserve ça. Donc c'est soit U, donc dans les nouvelles coordonnées, c'est U égale à constante ou V égale à constante, ça annule la partie, disons, RT de la métrique. Donc c'est la même chose que U égale à constante, V égale à constante. Et donc c'est aussi la même chose que T plus R égale à constante ou T moins R égale à constante. Donc dans la nouvelle coordonnée, on a toujours cette propriété agréable que les rayons lumineux sont à 45 degrés. Et ça c'est intéressant parce que les rayons lumineux, c'est ce qui détermine la causalité. En théorie einsteinienne, on ne peut pas aller... deux points peuvent être en contact causal si et seulement si l'un est dans le cône de lumière futur ou passé de l'autre. Et donc ce qui va déterminer la causalité ici, c'est toujours les droites à 45 degrés. Donc par exemple, cet événement-ci peut influencer tous les événements qui sont là, mais ne peut pas influencer les événements qui sont ici. Et peut être influencé par tous les événements qui sont en dessous. Et vous voyez aussi que tous les rayons lumineux vont terminer leur course, si je puis dire, vont arriver ici à Scri+, qui est pour cette raison appelé, en plus vous voyez que c'est quelque chose à 45 degrés, l'infini de genre lumière. Futur. Parce que les rayons lumineux dans le passé, ils viennent de là. Donc si vous remontez dans le temps, ils viennent d'ici. Bon, quand ils sont ici, évidemment, ça c'est l'origine, ils passent à travers l'origine, et donc ils viennent de là avec un renversement antipodal des angles. Hein. Mais donc vous voyez que ceci c'est le passé de tous les rayons lumineux, ça c'est le futur de tous les rayons lumineux. Vous pouvez montrer que les courbes causales à vitesse strictement plus petite que la vitesse de la lumière, elles partent d'ici et elles arrivent là. Mais je vais m'intéresser à ça, donc je ne dis pas plus. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de comprendre la géométrie qu'hérite l'infini de genre lumière de la structure minkowskienne. Et je vais montrer que c'est une structure carolienne, conforme. Donc c'est ça qui fait le lien avec le cours. Alors, d'abord, qu'il y ait une métrique dégénérée qui apparaisse, ce n'est pas trop surprenant puisque c'est une surface, une hypersurface de genre lumière d'après ce qu'on a vu. Mais je voudrais vous montrer qu'il y a plus que ça, que c'est vraiment une géométrie, une structure carolienne complète mais conforme. Alors, d'abord on va peut-être écrire explicitement la métrique. Bon, alors la métrique induite. Bon, vous voyez que, en fait, la métrique d'origine, elle fait intervenir ce facteur-ci, c'est-à-dire cos P et cos Q, qui, lorsque Q est égal à pi demi ou P est égal à pi demi, s'annule, et donc la métrique explose dans les coordonnées. Donc le prix à payer de ramener les coordonnées à des valeurs finies, ça reste toujours dans le terme de la métrique de départ à une distance infinie, et donc effectivement il y a quelque chose qui doit exploser. Mais vous voyez que si je fais une transformation conforme où je multiplie la métrique de départ par psi carré, j'obtiens une métrique qui, elle, est complètement régulière au bord. Donc cette singularité qui est inévitable, par facteur conforme, c'est pour ça qu'on parle de compactification conforme, on peut s'en débarrasser. Et donc là, en fait, je vais réellement étudier la géométrie induite par cette métrique-ci surscrit plus. Mais il faut se rappeler que là, j'ai fait des choix de coordonnées, je suis arrivé à un psi bien défini. Mais si j'avais si je voulais multiplier psi par un facteur oméga qui est régulier, j'arriverais à la même conclusion que la métrique ici est régulière. Mais elle sera multipliée par ou divisée par oméga. Donc en fait, la séparation de d sigma carré en un produit d'un facteur qui diverge et une métrique finie est ambiguë, puisque je peux toujours mettre un facteur fini ici et le même là, et ça se compense et j'obtiens toujours la même métrique de départ. C'est ça qui m'est donné. Donc il est clair que la structure que je vais avoir au bord, une fois que je me suis débarrassé, la manière de se débarrasser de l'infini comporte une ambiguïté qui est un facteur conforme. Bon, ceci étant dit, travaillons avec ça, et puis on se souviendra que tout est déterminé à un facteur conforme près, et regardons ce qui est défini. Bon, mais si je me place en t est égal à pi moins r, donc ça veut dire que dt est égal à moins dr, donc dt carré est égal à dr carré, donc ceci simplifie, et vous voyez que la métrique induite, je n'ai peut-être pas encore lui donné le nom de ds carré, c'est sinus carré r d oméga carré. Donc c'est une métrique à trois dimensions, enfin on est sur une surface à trois dimensions, donc je peux utiliser comme paramètre r par exemple et les angles, mais vous voyez que la métrique induite est dégénérée. Il n'y a rien, il n'y a pas de dr carré, donc c'est une métrique qui dépend d'un espace à trois dimensions, donc il y a trois coordonnées, il y a r, il y a θ et φ, mais seuls dθ et dφ apparaissent. Donc clairement, la métrique est singulière. Donc j'obtiens cette partie-là de la structure carolienne de manière assez évidente. Alors il se fait que, plutôt que d'utiliser la coordonnée r qui a le mauvais goût, on le voit bien ici, de décroître lorsque je vais vers le futur. Donc r est une coordonnée nulle, puisqu'il n'y a pas de dr carré. Mais vous voyez qu'elle part d'une valeur ici et qu'elle va décroître jusqu'à r égale à 0. Donc on va utiliser p, qui est pi demi moins r ici. Donc je vais utiliser p, qui est égal à pi demi moins r sur t égale pi moins r. Et en termes de P a l'avantage, lui, d'aller de lorsque R est égal, il va jusqu'à pi demi, il croit, de moins pi demi à plus demi. Donc quand R est égal à pi, P est égal à moins pi demi. Donc P est une coordonnée croissante, donc c'est plus facile. Et puisque le sinus de R, c'est le cosinus de P, donc je vais obtenir la même métrique et cosinus carré P, bon, ça c'est d oméga carré. C'est juste pour la commodité, pour avoir une coordonnée qui croît. Alors, il y a un vecteur nul qui est proportionnel à d sur dp, puisque la norme carrée de d sur dp, c'est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de dp carré qui apparaît. Et tout multiple de ce vecteur nul est aussi un vecteur nul. Donc, le vecteur nul, il est défini, c'est ce que je vous avais dit, à un facteur près. Il faut maintenant voir s'il y a une manière de définir la normalisation. Alors la réponse est oui, parce qu'on a aussi, on a non seulement d sigma carré, mais on a aussi psi, et les deux vont ensemble, on l'a vu, parce qu'ils doivent toujours donner le même d sigma carré. Donc psi, la fonction psi, elle est régulière, donc c'est 2 cosinus p cosinus q. Lorsque q est égal à pi demi, bon, psi est nul, mais enfin, ce n'est pas infini. Donc, psi n'a pas de singularité, juste elle s'annule. Mais rappelez-vous, il est intéressant de regarder le gradient de psi, parce que ça va me définir le vecteur orthogonal. Alors, pour ça, donc, je calcule des psi, et puis je mets en script plus. Alors, Q, cosinus Q s'annule, donc c'est uniquement lorsque je vais dériver par rapport à Q que je vais obtenir quelque chose. Ça va me donner moins 2 cosinus P, sinus Q, et puis je fais Q égale à pi de mi, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai des Q. Et la métrique est diagonale. Il y a peut-être un 2 que j'ai oublié. Oui, il est là. La métrique est diagonale. Donc maintenant, je vais élever l'indice. Mais alors, l'indice Q devient l'indice P. Donc en fait, je vais obtenir que lorsque je lève l'indice, le vecteur correspondant, ça va être D sur DP, qui correspond à DQ, avec le facteur, il y a un moins 2, donc cosinus P. Donc j'ai naturellement une normalisation du vecteur nul qui vient du facteur conforme psi. Donc pour isoler des sigma bar carré, j'ai dû faire un choix du facteur conforme. Les deux vont ensemble puisqu'il faut toujours qu'on ait ça. Et vous voyez que une fois que j'ai fait un choix, j'ai le psi. Et vous voyez que ce psi détermine naturellement un vecteur nul avec une normalisation que j'ai calculé ici, à partir de dpsi. C'est comme ça qu'on calcule les vecteurs orthogonaux. Alors, comme je vous l'ai dit, cette structure est définie à un facteur conforme près, c'est-à-dire que je peux remplacer psi, comme je l'ai dit, par oméga psi. Et donc je peux faire une transformation conforme. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes facteurs. Donc si je remplace psi par oméga psi, le d sigma carré, ben, le oméga carré va être au dénominateur. Donc le d sigma, je vais avoir que la métrique induite, appelons-la Gij, devient oméga carré Gij. Et la normale, où j'ai élevé l'indice avec la métrique inverse, elle va, et puis il y a aussi un psi qui apparaît, donc LNI va aller sur oméga moins 1 NI. Donc, pourquoi donc oméga moins 1 ? Je reprends le raisonnement. Il y a un oméga moins 2 qui vient de la métrique inverse pour élever l'indice. Mais aussi, si je change pi en oméga psi, il y a un oméga qui apparaît. Oméga fois oméga moins 2, ça fait oméga moins 1. Donc vous voyez qu'on se trouve exactement dans la structure conforme de tout à l'heure. Donc on voit qu'en fait, sur ma surface cri, je n'ai pas une métrique qui est entièrement définie, je n'ai pas un vecteur nul qui est entièrement défini, tout est défini à un facteur conforme près de cette manière-ci. Et donc, on a réellement ce que j'ai appelé une structure carolienne conforme. Alors, on peut tirer parti de cette structure carolienne, puisqu'on a cet avantage-là, puisqu'on peut faire ça, on peut se dire, ah mais je vais essayer d'utiliser ça pour avoir une représentation, une métrique la plus simple possible. Par exemple, ici, la métrique dépend de P, tel que j'ai fait les choses, mais donc ça veut dire en particulier que donc la métrique spatiale, qui est la métrique sur la sphère, est multipliée par cos p, donc ça veut dire qu'elle change dans mes coordonnées, avec les choix que j'ai faits, elle change quand je bouge ici. Une autre manière de dire la même chose, c'est ce que j'ai appelé la courbure extrinsèque correspondante, qui est la dérivée de l'i de la métrique le long du vecteur normal, avec ce choix, n'est pas nul. Mais je peux toujours tuer la dépendance en P en l'absorbant dans le facteur conforme. Il est clair que si je prends un facteur conforme qui est précisément, mais ça va comme ça, si oméga est égal à cos P, la nouvelle métrique, ou 1 sur cos P, la nouvelle métrique ne dépendra plus de rien du tout. sauf des angles, ce sera la métrique de la sphère. Donc en faisant cette transformation, disons la métrique que j'obtiens sur scri va être juste 2 oméga carré, hein, en ayant absorbé ça dans la liberté que j'ai, et la normale va être juste, alors on va prendre, on peut montrer, donc la normale va devenir, il faut aussi tenir compte du oméga moins 1, donc la normale va se transformer avec cosinus P, et vous pouvez montrer que c'est précisément la coordonnée U de tout à l'heure, ici. Donc vous pouvez démontrer que la normale, ça va être d sur dp, puis il faut avec un facteur qui est, donc ici je vous ai dit c'était cosinus p, mais on peut montrer qu'en faisant la transformation, ça va devenir précisément d sur du. Et donc dans ces coordonnées, on a ça. Donc ça c'est un choix, hein. Les choses étaient déjà bien avant, mais pour se simplifier la vie, je fais un choix de oméga tel qu'on est ceci. Et donc on a une structure conforme qui est la métrique de la sphère standard et d sur du. Alors on a montré à la fin de l'heure passée qu'il y avait un groupe de symétrie. Donc je vous ai dit aussi, en terminant, la sphère est conformément plate. Donc si vous étudiez le groupe conforme de ceci, c'est la même chose que le groupe conforme de tout à l'heure, où j'avais le plan. Donc ce qu'on sait, c'est que la structure qui va préserver, le groupe, pardon, qui va préserver cette structure, qui est une structure conforme, eh bien, ça va être le groupe de Carroll conforme d'un espace à trois dimensions. En d'autres termes, l'infini de genre lumière dans Minkowski hérite de la structure minkowskienne, une structure carolienne conforme, et le groupe de symétrie de cette structure carolienne conforme est le groupe de Carroll conforme. Alors, ce groupe de Carroll conforme a également un autre nom, mais peut-être avant de lui donner son autre nom, je vais expliciter un peu mieux ce groupe de Carroll conforme. On avait vu qu'il y avait les transformations, peut-être je dis autrement. Le groupe de Minkowski possède, l'espace de Minkowski possède des isométries. C'est le groupe de Poincaré, dans lequel il y a les quatre translations de temps et d'espace, les rotations d'espace et les boosts. Il est clair que toutes ces transformations vont préserver la structure qui est ici, puisque ça préserve Minkowski. Donc en particulier, dans le groupe de Carroll conforme, on doit retrouver le groupe de Poincaré. La réponse est oui. Donc là, on peut, et c'est très instructif, mais je ne vais pas le faire ici parce que c'est des calculs, et comme tout calcul, ça prend du temps. On peut réécrire les translations, les rotations spatiales, les boosts, et voir que ça définit des champs de vecteurs tangents à l'infini de genre lumière qui préservent la structure. Et donc on va avoir, je vais écrire ça comme ça, on va avoir les générateurs des rotations, moment angulaire, puis on va avoir les générateurs des boosts, et puis on va avoir les translations. Alors, les translations, elles apparaissent comme certaines fonctions des angles fois d sur du. Donc je vous dis, je ne fais pas le calcul, mais vous avez une expression en termes des coordonnées minkowskiennes de toutes ces opérations. Vous pouvez les traduire en termes des coordonnées U, V, θ phi, et puis dans les nouvelles coordonnées qu'on a introduites après, vous pouvez suivre ces vecteurs de points carrés à travers tous ces changements de coordonnées, et je vous prétends que voilà ce qui donne, et en particulier les translations, à l'infini de genre lumière. C'est juste un changement de variable, c'est pas très... Il ne faut pas être très imaginatif, il faut juste être bien systématique pour y arriver. Mais, et ça on l'avait vu aussi à la fin de l'heure précédente, dans le groupe de Carroll conforme apparaissent des fonctions arbitraires des coordonnées. Eh bien, ces fonctions arbitraires des coordonnées, elles apparaissent ici aussi. Pour les translations, c'est certaines fonctions alpha, mais il se fait que tout le groupe de Carroll conforme permet des fonctions arbitraires de θ et de φ. Donc en fait, les translations, on peut montrer que les translations de temps et d'espace, donc celles qui sont dans le groupe de Poincaré, c'est les premiers harmoniques sphériques de alpha, donc c'est alpha égale à constante, et puis alpha donné par les Y Lm avec L égale 1, en termes d'harmoniques sphériques. Et il y en a trois, M égale moins 1, 0, 1. Et donc ces quatre harmoniques sphériques décrivent les translations de temps et d'espace. Mais le groupe de Carroll conforme permet n'importe quelle fonction de θ et de φ ici. Il est donc plus grand que le groupe de Poincaré. Et il s'avère, et ce n'est pas surprenant d'après ce que je dis, mais donc je vais dire les mots et puis je vais commenter, que c'est exactement le groupe que Bondy, Metzner et Sachs, donc on l'appelle BMS pour cette raison, ont trouvé lorsqu'ils ont étudié les symétries des espaces qui étaient asymptotiquement plats. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les espaces. Quand je dis espace, c'est toujours espace-temps. Les espaces-temps qui, à très grande distance, approchaient Minkowski et qui, asymptotiquement, ont coïncidé avec Minkowski. Donc, ils ont donné un sens précis à ça. Il faut dire comment ça tend vers... comment les deux tendent l'un vers l'autre, quand R tend vers l'infini, etc. Mais donc, ils ont été précis, ils ont défini ça, et puis ils se sont posé la question, quel est le groupe qui préserve ce développement asymptotique, cette structure asymptotique? Et ils sont tombés sur un groupe infini dimensionnel, qui était en fait exactement ce groupe-ci. Mais la manière par laquelle ils sont arrivés, c'est en regardant les conditions de décroissance, en regardant ce qui était préservé, quelles transformations de coordonnées préservaient ça, ils sont arrivés à ce groupe. Ils s'attendaient à ne trouver que Poincaré, parce qu'après tout, Minkowski et Poincaré, c'est la même chose, mais ils ont trouvé un groupe infini dimensionnel. Et la manière dont on peut comprendre ça, c'est de se dire, ben oui, c'est normal, parce que l'infini de Minkowski, donc si on regarde les choses proches de l'infini, son groupe de symétrie, ce n'est pas juste Poincaré, c'est le groupe de Carroll conforme qui contient Poincaré, c'est-à-dire ça, ça, et les premières harmoniques sphériques, mais qui contient aussi tous les autres harmoniques sphériques. L égale 2, L égale 3, L égale 4, L égale 5, etc. Et donc est infinidimensionnel. Qu'il soit infinidimensionnel, le groupe de Carroll conforme, on l'a vu là, à la fin de l'heure précédente, que quand on étudie la gravitation dans des espaces asymptotiquement plats, on trouve un groupe infinidimensionnel qui contient Poincaré, ça a été une surprise. Mais par l'analyse ici, en étudiant les propriétés de l'infini de genre lumière, ben on voit bien que ça doit être ça. Puisque l'infini de genre lumière hérite d'une structure de Carroll conforme, le groupe qui préserve ça, c'est le groupe de Carroll conforme, et si on fait l'analyse en regardant les propriétés asymptotiques de l'infini, justement, on se place à l'infini, on doit retrouver le même groupe de symétrie. C'est cette propriété que le groupe de symétrie asymptotique et le groupe de Carole Conforme, qui a fait qu'il y a un intérêt très grand parmi les physiciens qui étudient la gravitation dans le contexte des espaces asymptotiquement plats pour les structures caroliennes, ou caroliennes conformes. Parce que si c'est le groupe de symétrie, vous savez qu'il y a, en tout cas dans le cas des espaces, bon, ça va être un peu peut-être de la science-fiction pour certains, parce que je ne vais pas le développer, mais c'est juste pour vous dire pourquoi les gens sont tellement intéressés. On a pu montrer qu'il y avait une correspondance holographique dans le cas des espaces, pas asymptotiquement plats, mais ce qu'on appelle asymptotiquement antidecitaires, donc avec un autre groupe de symétrie, entre des théories définies au bord qui possèdent ce groupe de symétrie et la gravitation à l'intérieur. Et donc il y a tout ce qu'on appelle le principe holographique, la correspondance ADS-CFT, qui permet de reformuler la gravitation en termes de théorie conforme au bord. Mais c'est dans le cadre antidecitaire. Et nous ne vivons apparemment pas dans antidecitaire, mais plutôt dans asymptotiquement plat, ça paraît plus raisonnable. Et donc il y a un défi qui est posé, c'est comment quantifier la gravitation, comment comprendre la gravitation en termes... Est-ce qu'on peut construire un principe holographique pour la gravitation dans le cadre asymptotiquement plat ? Dans le cadre asymptotiquement antidecitaire, oui, les choses sont magnifiques, mais ça n'est peut-être pas tout à fait la situation dans laquelle on est. Dans le cadre asymptotiquement plat, c'est beaucoup plus compliqué, et on essaye de construire ça, et on se dit que de la même manière que le groupe antidecitaire joue un rôle important dans la correspondance holographique faisant intervenir antidecitaire, le groupe de symétrie asymptotique, à savoir... le groupe de Carole Conforme devrait jouer un rôle important si l'on veut développer une correspondance holographique pour les espaces asymptotiquement plats. Donc, je me rends bien compte que peut-être ceci, c'est un peu du chinois pour certains d'entre vous, mais c'est juste pour dire que cette limite C tendant vers zéro, qui correspond quand même à la structure de Carole, elle ne tombe, c'est pas quelque chose... qui est un amusement de mathématicien, mais il y a vraiment des situations physiques où ça apparaît. Et donc mieux comprendre cette limite, mieux comprendre les théories des champs qui sont invariantes pour le groupe de Carole Conforme, mieux comprendre les situations dans lesquelles il apparaît, est un défi qui a, même si les travaux de BMS, ça date d'il y a longtemps, même si la compactification de Penrose, ça date d'il y a longtemps, ces idées holographiques sont, elles, beaucoup plus neuves et ont motivé le regain d'intérêt, enfin, et la reconsidération. Il y a même pas mal, beaucoup de travaux qui se font pour ces structures caroliennes. Voilà, donc ceci finit la leçon de l'heure précédente. Et donc je vais maintenant commencer la leçon de cette heure-ci. Et comme c'est une leçon qui est un peu à l'écart du reste, en fait, elle était très logique comme séminaire après la première heure, mais pour des raisons de logistique, toutes les personnes que je voulais faire parler en séminaire aujourd'hui n'étaient pas disponibles, mais étaient disponibles à la première heure. Ce séminaire conçu initialement pour la première heure donné par moi est donné maintenant. Mais donc, par rapport à ce qu'on a vu, c'est un peu une parenthèse, donc c'est un peu moins grave si je ne couvre pas tout. Donc il nous reste trois quarts d'heure, au cours desquels je vais revenir sur le problème qu'on a examiné à la toute première heure, qui était l'étude des algèbres cinématiques. Ça va ? Donc, vous pouvez un peu oublier tout ce que j'ai dit maintenant. Oh, c'est pas nécessaire non plus. Mais on revient à l'étude des algèbres cinématiques. Et je vais vous montrer que l'étude de ces algèbres cinématiques, et c'est surtout mathématique ce que je vais faire maintenant, mais ça a un grand intérêt mathématique. C'est directement relié à ce qu'on appelle la cohomologie des algèbres de Lie. Et cette cohomologie des algèbres de Lie, c'est aussi lié, quand on étudie par exemple Yang-Mills, qui est basé sur des algèbres de Lie, à ce qu'on appelle la renormalisation de Yang-Mills. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais introduire le problème de cohomologie des algèbres de Lie. Mais donc voilà, revenons à nos moutons de la première leçon. Et donc là, puisqu'il y a très longtemps, il faut peut-être que je vous rafraîchisse un peu la mémoire. Donc on va revenir à l'étude de ces algèbres cinématiques. Donc je vous rappelle, Poincaré est un exemple particulier d'algèbre cinématique, mais le groupe de Carole qu'on a étudié, c'est un autre exemple d'algèbre cinématique. Le groupe de Galilée, qu'on a aussi étudié à la deuxième leçon, c'est un exemple d'algèbre cinématique. Et donc les physiciens, théoriciens, physiciens mathématiciens, se sont posés la question, quelles sont les algèbres cinématiques ? Quelle est l'algèbre cinématique la plus générale ? Voilà, quelles sont les algèbres cinématiques ? Il y a Poincaré, il y a Carroll, il y a Galilée, y en a-t-il d'autres ? Et la réponse est oui, il y en a d'autres. Et donc il y a des classifications systématiques qui ont été faites. Alors, à la première heure, je vous ai fait, on a même fait complètement la classification des algèbres cinématiques, mais en faisant une hypothèse, c'est qu'elles étaient invariantes pour le renversement du temps et la parité d'espace. Et en imposant ces conditions supplémentaires, qui sont satisfaites par Poincaré, donc c'était une des raisons, par Carroll et Galilée, on a pu les trouver toutes. Mais, bon, et non seulement on a pu les trouver toutes, mais en plus je vous ai montré, c'était mathématiquement intéressant, qu'elles pouvaient toutes s'obtenir à partir, disons, de deux algèbres mères ou pères, c'est ce que vous préférez, qui sont deucitaires et antideucitaires, par un processus de contraction d'Inonou-Wigner. Donc vous partez de ces algèbres, et en faisant ce processus de contraction que je vous ai expliqué, vous pouvez retomber sur Poincaré, vous pouvez retomber sur Carroll, vous pouvez tomber sur Galilée, et sur toutes les autres qui apparaissaient dans la classification, faite sous l'hypothèse que T, renversement du temps, et P, la parité, étaient des automorphismes, donc des symétries de l'algèbre. Et alors, la manière dont on avait procédé, c'est qu'on avait... Bon, puisque c'est des algèbres cinématiques, bon, vous savez, il y a plusieurs générateurs. Hein, il y a J, qui est un vecteur. Il y a les translations d'espace. Il y a les boosts. Il y a l'énergie. Et puis, c'est tout, oui. Et donc, il y a 10 générateurs. Et ce qu'on demandait, c'est que J engendre les rotations, donc obéisse aux relations de commutation de l'algèbre SO3, que P et K se transforment comme des vecteurs sous J, et que H se transforme comme un scalaire sous J, c'est-à-dire des relations de commutation nulles. Dans le commutateur de J avec H, c'est 0. P se transforme comme un vecteur, K, c'est 0. Donc c'était les seules hypothèses qu'on s'était données. Et puis, donc, il fallait trouver les relations de commutation de P, K et H entre eux. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités, mais on a restreint les possibilités en imposant la variance sous P et sous la parité et sous le renversement du temps. Et ça nous permettait de grandement simplifier l'analyse des identités de Jacobi. Parce qu'en fait, ces relations de commutation font intervenir linéairement les autres générateurs, mais les coefficients doivent obéir à l'identité de Jacobi, comme j'avais expliqué. Et si le choix des coefficients est restreint par le fait que P et T, renversement du temps, et parité sont des symétries, on avait pu mener le problème jusqu'au bout. Mais il existe des algèbres cinématiques qui ne sont pas invariantes sous T et P. Cette classification est incomplète, et comme toujours, quand on a une classification incomplète, on a envie de la compléter. Et donc, on a envie de se poser la question, existe-t-il des algèbres en dehors de celles qui sont invariantes pour le renversement du temps et pour la parité ? Et la réponse est oui. Par exemple, je peux tout de suite écrire une algèbre où j'ai les relations de standard avec J, celles qui sont imposées, et en plus, comme seule autre relation non nulle, par exemple, Ki, Kj est égal à epsilon ijk pk. Alors k et p changent de signe quand on retourne l'espace. Mais ceci, puisque c'est à 2k, ça change pas de signe. Et p change de signe. Donc ça, c'est clair que ce n'est pas invariant pour la parité. Donc tous les autres nuls, on peut voir que Jacobi est satisfait. Donc il existe des exemples d'algèbres qui ne rentrent pas dans la classification qu'on a faite, et donc les gens se sont posés tout de suite la question, peut-on compléter la classification sans faire cette hypothèse simplificatrice ? Et il y a deux manières de procéder. Il y en a une qui est juste la généralisation de ce que j'ai fait, qui consiste à écrire tous les termes possibles, à imposer Jacobi et voir ce qui sort. C'est fastidieux, ça peut être fait, mais c'est long. Et bon, c'est peut-être pas très instructif non plus. Il y en a une autre qui consiste à se dire, bon, on a vu qu'il y avait un procédé qui consistait en partant de deucitère et antideucitère, par contraction successive, de dériver toutes celles qu'on a écrites. On peut se poser la question dans l'autre sens, peut-être qu'il y a moyen de remonter. En d'autres termes, si je pars de l'algèbre la plus simple, qui était l'algèbre statique, où il y avait juste comme relation non nulle celle impliquée par la variance par rotation, mais tous les autres commutateurs nuls, ça c'est clair que ça satisfait Jacobi, parce que 0 est égal à 0. Peut-être qu'il y a moyen, par un processus que je vais expliquer, parce que la réponse est oui, de retrouver à partir de l'algèbre la plus simple, de manière, disons, où on complique cette fois-ci, de les retrouver toutes. Et c'est ce qu'on appelle déformer l'algèbre de Lie. Donc est-ce qu'il y a moyen, en partant de l'algèbre de Lie la plus simple, de la déformer pour retrouver toutes les autres, et de la déformer de manière à préserver l'identité de Jacobi, puisque c'est ça l'équation clé. Et donc ceci rentre en fait dans le problème de déformation des algèbres de Lie. Et donc c'est ce que je veux illustrer parce que ça fait appel à des techniques mathématiques intéressantes, ce qu'on appelle la cohomologie des algèbres de Lie, mais qui sont aussi intéressantes en physique dans un tout autre contexte, par exemple la renormalisation pour les théories de jauge. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je vais vous montrer comment on peut reformuler le problème de déformation des algèbres de Lie comme un problème cohomologique. Et j'expliquerai aussi ce que c'est que la cohomologie pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc quel est le problème? Supposons que j'ai une algèbre de Lie G, donc c'est défini par des relations de commutation entre les générateurs. Hein. XA, XB est égal à FA, BC, XC. Donc on connaît complètement l'algèbre de Lie lorsqu'on connaît les nombres qui apparaissent ici, qu'on appelle constantes de structure. Donc si je vous donne des constantes de structure, vous connaissez l'algèbre. Mais ces constantes de structure, elles ne peuvent pas être arbitraires. Parce qu'on veut que le crochet, le commutateur, doit obéir à l'identité de Jacobi. Et donc, je l'avais écrite, hein, on obtient une relation quadratique sur les F, que je vais écrire ici. Donc, je prends un commutateur triple et j'utilise le fait que la somme sur les permutations cycliques, ça fait 0. Et j'obtiens, en prenant encore un commutateur, un autre F. Donc, je l'écris ici. La relation qu'on obtient... DE, donc là c'est un B, B est sommé, donc j'obtiens quelque chose comme ça. Donc ça c'est Jacobi. Donc une algèbre de Lie est définie par les constantes de structure qui doivent obéir à ça. Mais deux ensembles de constantes de structure peuvent me définir la même algèbre si je peux relier les unes aux autres par un changement de base. Hein, si je décide, ah, mais je vais travailler avec des x' a qui sont reliés au xa par un changement de base inversible, quand je vais calculer les relations de commutation dans la nouvelle base, je vais avoir des f' qui s'obtiennent par changement de base. Donc si deux ensembles de constantes de structure diffèrent juste par un changement de base, c'est la même algèbre. Il ne faut pas considérer ça comme une nouvelle. Alors comment se transforment les constantes de structure? Ben, en fait, comme les indices, cette notation tensorielle est super puissante. En fait, dans la nouvelle base, donc si j'appelle les matrices de changement de base, comment je les appelle? Grand lambda A, B, ben, les nouvelles constantes de structure, je vais garder les mêmes indices parce que comme c'est la deuxième heure, si je ne suis pas mes notes, je risque d'improviser faux. Donc lambda A, M, F, M. Donc l'indice répété sont sommés, hein, comme toujours. NP. Puis ces indices-là se transforment avec lambda, mais les autres alors avec lambda moins 1. N, B, lambda moins 1. P, C. Donc si vous... F' et F définissent la même algèbre. Parce qu'on Ça, c'est les matrices de changement de base. Et bon, c'est un tenseur avec, avec trois indices. Tout ça, c'est un indice contravariant. Il se transforme avec la matrice lambda. Les covariants dans l'espace dual se transforment avec la matrice inverse. Bien. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de trouver l'ensemble de constantes de structure le plus général, compatible avec le fait que les rotations doivent être des rotations. Donc il y avait les relations de commutation avec les J qui sont fixées. Mais le reste, ce n'est pas fixé. Et cette liberté-là, on l'avait déjà d'ailleurs en partie utilisée, parce que je rappelez-vous, j'avais décidé, on va renormaliser les ponts, on va transformer les générateurs pour absorber certains facteurs. Comme ça, j'étais arrivé à la forme canonique. Donc en fait, on avait déjà utilisé ça. Alors l'idée va être la suivante. On va dire, ben, supposons qu'on ait une algèbre, par exemple la plus simple, où tout est zéro. Tout est zéro sauf ceux, les relations de commutation faisant intervenir J. Est-ce que je peux déformer mes constantes de structure en maintenant Jacobi et en contrôlant l'ambiguïté? Donc ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une déformation formelle d'F. Donc je suppose que j'ai une solution de Jacobi et je me pose la question, je vais l'appeler cette solution, c'est ma solution de départ. Est-ce que je peux la déformer et je vais faire une déformation formelle, c'est-à-dire que je vais introduire un paramètre plus que j'appelle epsilon. Donc à la limite, on retrouve ça. Donc je fais une série formelle et les coefficients, là je ne suis pas très imaginatif, je leur mets les mêmes indices, mais je mets un super indice ici qui me dit où j'en suis, etc. Donc ça, ce serait mon F. Bon, on pourra s'intéresser aux conditions de convergence après. Donc j'essaie d'obtenir le F le plus général en déformant de manière continue le F de départ. Et pour le moment, considérons ça comme une série formelle. Les questions de convergence, j'en parlerai plus tard si j'ai le temps. Et on se pose la question, on sait que ceux-ci obéissent à l'identité de Jacobi, on part de quelque chose qui obéit à l'identité de Jacobi, mais on veut que, à tout moment, on reste avec une algèbre de Lie, c'est-à-dire que pour toute valeur du paramètre epsilon, et donc à l'arrivée en particulier, on est une algèbre de Lie, c'est-à-dire une solution de Jacobi. Il est clair que, pour qu'on ait une condition de Jacobi, que Jacobi soit satisfaite en tout ordre en epsilon, il faut que F1, F2, F3 obéissent à certaines conditions qui vont découler de Jacobi pour la somme. Hein, par exemple, on va dire que F1 ABC est une déformation cohérente du premier ordre . On commence par celui-là. Eh bien, si et seulement si F0 ABC plus epsilon F1 ABC obéit à Jacobi à des termes d'ordre epsilon carré près. Ils sont d'ordre epsilon carré. L'idée étant que si l'on veut que ceci soit satisfait à tous les ordres, il faut que F1 doit satisfaire à ça. Et puis F2, évidemment, va tenir compte des termes en epsilon carré. Puis F3, des termes en epsilon Q. Mais donc, si je regarde que la première partie, il faut qu'au moins dans Jacobi, tous les termes en epsilon disparaissent pour qu'il n'y ait que des termes en epsilon carré et plus élevés. D'accord ? Donc, on veut... Ceci doit obéir à Jacobi. Et on développe Jacobi ordre par ordre en epsilon, et donc il faut que Jacobi soit satisfaite pour toute valeur de epsilon, donc en particulier pour les ordres epsilon, donc ce qui va donner une condition ici qui me dit que Jacobi, quand je prends juste ça, est satisfaite à epsilon carré près, le terme en epsilon disparaisse. D'accord? C'est clair? Donc on perturbe et on regarde, on va avoir une condition à chaque ordre. Pour F1, voilà ce qu'on obtient. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ben, là, il faut déballer ceci et avoir une équation un peu compliquée. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc il faut que... Ben, je vais peut-être pas écrire tout en détail parce que... Donc il faut que F... Donc je réécris ça, mais en substituant à F, F0 plus epsilon, ABC plus epsilon, F1, ABC. Et donc je demande que si je multiplie ça par F0, 0, B, D, E, plus epsilon, F1, B, D, E. Donc on voit tout de suite que c'est lourd et qu'il va être utile d'avoir une notation et des conventions beaucoup plus économes, sinon on ne s'y retrouvera plus. On veut que ça, ce soit d'ordre epsilon carré. Donc il faut que les termes d'ordre epsilon... D'abord, le terme d'ordre 0 en epsilon, il est absent, puisque par hypothèse, on part d'une algèbre de Lie. Donc il faut encore que j'antisymétrise, oui. Donc il n'y a pas de terme d'ordre epsilon. Si le point de départ n'est pas un bon point de départ, pas beaucoup de chances que ça marche. Donc ça, ça marche. Point. Mais après, il y aura des termes en epsilon. Et vous voyez que j'en ai deux types. J'aurai F1, F0 qui vient de là, et F0, F1 qui vient de là. Donc je vais avoir symboliquement, je vais écrire ça comme ça, hein, parce que ça prend du temps à écrire les indices, comme vous le voyez, plus F1, F0, donc la contraction doit se faire comme elle est indiquée là, égale à 0. Donc j'ai une condition linéaire en F1, puisque F0 c'est connu, qui doit être satisfaite. Avec des conditions, avec la contraction d'indice qui est indiquée ici. Hein. D'accord? Je vais ici insister sur les idées plutôt que faire les calculs explicites, d'autant que m'approchant de la fin, ma pensée, je risque de faire des fautes partout. Donc, j'espère que conceptuellement, je ne les ferai pas. Alors, on va trouver... supposons qu'on ait trouvé un F1 solution de cette équation, donc on a trouvé une déformation cohérente, on va ensuite se poser la question, ah mais peut-être cette déformation cohérente, je suis parti de F0 et j'ai fait un changement de coordonnées qui dépendait de epsilon, qui était, mettons, l'identité plus epsilon fois une matrice non identité, ça va m'engendrer un F0 plus epsilon F1. Mais c'est un F1 qui est trivial, en un sens qu'il provient juste d'un changement de coordonnées qui dépendait de epsilon. Donc parmi les solutions qu'on va trouver, il y a des solutions triviales. Et quelles sont les solutions triviales? Donc on dira que F1 est trivial si la somme ici peut s'écrire comme cela avec F0 ici présent. Pour un lambda qui serait, donc je vais peut-être l'écrire explicitement, ça je peux le faire, hein, surtout si je suis mes notes. Donc on va dire, eh bien, peut-être que F0 ABC, donc, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est intéressant d'utiliser des idées de cohomologie, parce qu'à un moment donné ici on ne s'y retrouve plus dans les indices et on fait des erreurs. ABC, on va se dire, eh bien, si ceci provient d'un changement de coordonnées sur F0, ben, ce sera trivial. Mais évidemment, comme on ne veut pas toucher à F0, ben, on va prendre lambda à l'ordre 0 donné par delta. Donc c'est une transformation de coordonnées proche de l'identité, plus, mettons, epsilon petit lambda à m. Hein, j'ai écrit la relation ici, mais en prenant lambda de cette forme-là, et je n'écris pas tout ce qui est en supérieur à epsilon carré ou supérieur. F0. Donc on fait un changement de coordonnées et on regarde comment F0 se transforme. Et puis j'ai les autres matrices. Puis ça va être les matrices, comme c'est l'inverse, c'est facile de prendre l'inverse à l'ordre epsilon. C'est delta NB moins epsilon lambda NB delta PC. Oui, d'ailleurs, ce n'était pas FABC. Hein. Ici, j'ai écrit n'importe quoi, ce qui est bien la preuve que c'est un M... NP moins epsilon lambda P C. Donc si vous déballez ça, vous allez obtenir une relation à l'ordre epsilon qui vous relie F1 à F0 et les lambda, qui est une certaine relation. Donc si c'est le cas, F1 trivial, donc on dit que c'est une solution triviale si ceci est à l'ordre évidemment epsilon carré près. Hein, donc on laisse tomber les epsilon carrés. Parce qu'il y aura des termes d'ordre epsilon carré dans ce que j'ai écrit. Et donc ceci vous dit, donne une certaine relation. Donc ça me dit la chose suivante, c'est que si F A A B C est de la forme, écrivons, lambda AM FM. Donc si j'ai pris l'ordre epsilon ici, je dois prendre l'ordre 1 là, donc ça va être BC, moins lambda NB FA NC, 0 ici, hein, lambda PC, donc je dois prendre l'identité pour les autres, F0 A B, P. Donc, si F1 a cette forme-là, c'est une solution triviale. Soit dit en passant, quand on écrit ça comme ça, c'est pas entièrement évident qu'on a une solution de l'équation de Jacobi, mais vous pouvez vérifier. Par cohérence, ça doit l'être, hein, puisque vous avez fait un changement de coordonnées de Jacobi et que Jacobi est invariant par changement de base. Hein, donc. Mais quand vous regardez les choses, ça a l'air assez formidable comme calcul, mais vous pouvez vérifier qu'effectivement, c'est une solution, mais c'est une solution triviale. Donc il y a toujours des solutions de ça, mais la question est de savoir, y a-t-il d'autres solutions que les solutions triviales? Parce que si je déforme et que je pars de l'algèbre statique, je la déforme et que je retombe sur l'algèbre statique, je n'ai pas gagné grand-chose. Alors, vous voyez qu'ici, on a vraiment tous les ingrédients d'un problème de cohomologie. On est en train de chercher des F, qui doivent obéir à une certaine condition. Donc on aimerait bien que ce soit une condition. Je vais définir la cohomologie plus tard, mais pour ceux qui savent, j'anticipe. On aimerait bien que ça soit une condition de cocycle, d'une certaine cohomologie, et que les solutions de ce type-là soient les cobores. Quand on identifie les cocycles par les cobores, on obtient la cohomologie. Donc ceci peut-être ne veut encore rien dire pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça va s'éclaircir dans 5 minutes. Alors oui, je ne vais pas le faire en détail. On peut ensuite se poser la question, mais ce sera tellement facile dans le formalisme que je vais introduire que je ne vais pas le faire en détail maintenant. Supposons qu'on ait trouvé une déformation cohérente du premier ordre non trivial. On la met là. Que se passe-t-il quand je passe à l'ordre suivant? À nouveau, si on veut que l'identité de Jacobi soit satisfaite, cette fois-ci non pas jusqu'à l'ordre epsilon carré, mais jusqu'à l'ordre epsilon cube, on va avoir une condition sur l'ordre suivant. C'est que les termes d'ordre epsilon carré qui viendraient d'ici doivent être compensés par le F2. Et puis, ordre par ordre, on va avoir des conditions. On peut montrer que la condition est toujours la même. Elle est toujours la même. La partie qui fait intervenir le nouveau terme est toujours le même. Ce sera le nouveau terme avec F0. Mais il y aura un membre de droite qui apparaîtra. Bon. Je ne vais pas le faire maintenant parce que les choses vont être extrêmement plus simples dans le formalisme que je vais introduire, qui est directement une reformulation, mais dans un langage commode pour les physiciens, cohomologique, de ce problème, et c'est la cohomologie des algèbres de Lie. Donc, vous voyez que on a tendance à se perdre dans les indices, ça a l'air un peu formidable comme truc, surtout que j'ai fait que le premier ordre, au deuxième ordre, tout va commencer à se mélanger, et puis quand vous êtes à l'ordre là, tous les termes précédents vont apparaître dans les équations, donc ça a l'air d'être extrêmement lourd en tout cas. Peut-être pas compliqué, ça il faut regarder plus en détail, mais lourd. Et je vais reformuler ce problème, comme je l'ai dit, de manière plus simple. Et pour ça, je vais faire des choses, je vais élargir l'espace. C'est-à-dire qu'à côté de mes constantes de structure, Je vais introduire et je vais utiliser délibérément le langage des physiciens. Donc ce n'est pas le langage des mathématiciens qui travaillent sur les cohomologies des algèbres de Lie. Je vais délibérément utiliser le langage des physiciens parce que ce que je fais ici a une application en théorie quantique des champs pour les théories de jauge, où les objets que je vais introduire portent le nom que je vais utiliser. Donc c'est reformulation cohomologique. Je vais introduire ce qu'on appelle des fantômes, que je vais appeler CA. Alors pourquoi c'est des fantômes? Ça a une longue histoire de la quantification des théories de Young-Mills, où il fallait introduire pour préserver l'unitarité des champs nouveaux qui avaient des propriétés bizarres et qui n'apparaissaient pas surtout dans les états externes, et donc qui n'apparaissaient que dans les processus, disons, dans les boucles, etc. Et donc, ou dans les états intermédiaires, pour être plus précis. Et donc, on les a appelés champs fantômes pour cette raison-là. Et je vais garder la terminologie. Donc, je vais introduire autant de nouvelles variables que de générateurs de l'algèbre de Lie. Et je les appelle fantômes. Alors, dans ce contexte, les mathématiciens les appellent autrement. Et en fait, ça apparaît par exemple comme les formes invariantes, les informes invariantes sur le groupe. Mais on n'a pas besoin de savoir ça. Et c'est des objets un peu bizarres, c'est vrai que c'est des variables quantiques commutes, mais après, si je vous dis que c'est des informes, ça n'est peut-être pas si bizarre. Donc ça veut dire que quand vous commutez 2C, C1 et C2, c'est égal à moins C2, C1. De la même manière que DX1, DX2, c'est moins DX2, DX1. Donc c'est des objets quantiques commutes. Et on va leur donner un degré. Alors, dans le cas des mathématiciens, ils vont parler de forme de degré 1, des informes. Et si je vais utiliser le degré que les physiciens utilisent, je vais dire que c'est un nombre de fantômes 1. Et alors, je vais également introduire d'autres variables en même nombre que je vais appeler des antichamps. Bon, pour le moment, on peut se demander pourquoi je fais ça. Je prends la vitesse de la lumière égale à zéro, je considère des fantômes. Sorti de son contexte, ça pourrait être très dangereux. Mais vous allez voir que c'est utile. Et je vais les noter, c'est star A, donc il y en a autant qu'il y a de fantômes. Alors, ça, c'est des variables qui commutent, mais c'est un nombre de fantômes. Moins 2. En fait, c'est pour avoir des choses, c'est pour arriver à zéro dans des expressions familières. Les physiciens font ça, les mathématiciens probablement qu'ils n'introduisent pas explicitement cela, ils considèrent. Ces antichamps se transforment dans la représentation adjointe, donc ils regardent juste la représentation adjointe sans préciser, sans donner une base, comme je fais ici. Mais c'est équivalent, donc voilà. Je vais le faire d'une. Comme j'ai dit, je le fais dans un formalisme délibérément utile pour la théorie quantique des champs de Young-Mills. Et puisqu'ils sont en même nombre, c'est un peu comme les P et les Q de l'espace des phases. On va décréter que C star A est la variable conjuguée de C dans un certain crochet, mais un crochet un peu bizarre, puisqu'il associe des variables qui anticommutent. À des variables qui commutent, donc ça c'est nouveau. Donc on va appeler ça l'anticrochet. Et donc on va dire que dans l'anticrochet, que tout le monde note avec des parenthèses, CA est le conjugué de C star B. Et l'anticrochet est étendu à des fonctions quelconques de C et de C star, de manière à ce que ce soit une dérivation. C'est-à-dire que FG ou F et G sont des fonctions de C et de C star. C'est comme le crochet de poisson, sauf qu'il a des propriétés inhabituelles. Il, il apparie une variable nombre de fantômes 1 à une variable nombre de fantômes moins 2, une variable qui commute avec une variable qui anticommute. Donc, en un sens, le crochet n'est pas inoffensif. Il porte un nombre de fantômes 1 et c'est intrinsèquement anticommutant. Donc, on appelle ça un anticrochet. Mais donc, on définit les règles algébriques ici. Pourquoi c'est utile? Mais vous allez voir tout de suite. Ces règles algébriques, maintenant, si j'ai une fonction quelconque dc, une fonction quelconque et dc star, et une fonction quelconque dg et dc star, je dis ça agit comme une dérivation. Alors, comme il y a des variables qui anticommutent, il faut faire gaffe à dériver à droite et dériver à gauche. Mais disons, si je fais sortir f par là, alors je ne sais jamais si c'est dérivé droite ou dérivé gauche. Donc, f sort par la gauche, mais la variable reste à droite. Appelons ça la dérivée droite, donc parce que je mets la variable à droite. Donc, dérivée droite de f par rapport à c, a, c'est a, c'est star b. Bon, donc ça c'est 1, donc ça va me donner dérivée gauche, puisque je fais sortir de ce côté-là de g par rapport à c star a. Mais là, il n'y a pas de problème gauche-droite, puisque ça commute. C'est juste avec celui-là qu'il faut faire attention. Moins d, il faudra anticommuter dr g sur... drf, pardon. Sur dc star a. Donc c'est comme le crochet de poisson dans l'espace des phases. Hein. C'est juste qu'il faut être prudent. Et là, dlg sur dca. Donc, qui vient du fait que dans le crochet de l'anticrochet, C et C star sont conjugués. Bon, alors pourquoi tout ça est intéressant? Mais d'abord, même avant de le dire, il y a quand même des propriétés inhabituelles. Vous savez que le crochet de poisson est antisymétrique, mais l'anticrochet, il est. Tous les signes ont changé. Mais à part ça, il y a le même type de propriétés qui apparaissent. En particulier, si j'ai deux fonctions qui commutent, alors les gens disent en général des bosons. Le crochet de poisson, l'anticrochet est dans ce cas-là symétrique. Donc en particulier, l'anticrochet d'une fonction symétrique bosonique avec elle-même, l'anticrochet avec elle-même, n'est pas nécessairement nul. D'habitude, on dit le crochet de poisson de H avec H, c'est 0 parce que c'est antisymétrique. Donc, bon, mais si comme c'est symétrique pour les variables, donc ce qui est antisymétrique dans le cas habituel, ici ça change, ça devient symétrique. Mais néanmoins, on a l'identité de Jacobi, mais une identité de Jacobi avec des signes qui se mettent au bon endroit. Alors je vous laisse, on ne va pas faire tout en détail ici, mais en particulier, s'il est vrai que B avec B n'est pas toujours égal à 0, quand B est une variable qui commute, une fonction qui commute, si je prends un triple crochet, par Jacobi, c'est égal à 0. C'est la seule chose qu'il faut savoir. Et ça, ça vient des définitions. Donc, si vous êtes courageux, je vous suggère plutôt à vérifier ça. Je ne vais pas le faire explicitement, parce qu'en fait, c'est un crochet de poisson, mais pour lequel tous les signes habituels sont changés, si je puis dire. Donc on a une identité de Jacobi, on a des propriétés de symétrie et d'antisymétrie, sauf que elles sont changées par un signe. Bien, alors maintenant, et c'est surtout ça l'important, je vais introduire, à partir de F0, un objet que j'appelle grand S, parce que les physiciens l'appellent S, qui est C star A, peut-être un demi on met, FA BC, CB, CC. Donc je me donne des constantes de structure et je sature les indices la seule manière possible. Et je calcule, alors vous voyez qu'ici j'ai deux objets qui anticommutent, donc ça commute. Avec le produit CB, CC commute avec tout, C star A commute. Donc en fait, cet objet-ci, S, est un objet qui va commuter avec tous les éléments dans l'algèbre. Donc c'est un objet qui commute. Je peux calculer l'anticrochet de S avec S, et puisque c'est un objet qui commute, ça n'a a priori aucune raison d'être nul. Mais on peut montrer que ce qui apparaît quand vous faites le calcul, ben, il y a du f ici, il y a du f ici, donc ça va être une expression quadratique en f. Hein? Avec, comme c'est, en utilisant le fait que c'est des variables conjuguées, où il y a une contraction sur deux indices. Et si vous faites le calcul soigneusement, vous verrez que S est égal à 0 est équivalent à l'identité de Jacobi. En d'autres termes, si je vous donne un S avec des F tels que S est égal à 0, ces F peuvent être vus comme les constantes de structure d'une algèbre de Lie. Et le problème de déformer une algèbre de Lie revient donc, on va voir qu'on a gagné quelque chose, au problème de déformer S de manière à préserver cette équation. Et comme cette équation est importante, on lui donne un nom, équation maîtresse. Donc l'équation maîtresse est complètement équivalente à Jacobi. Donc si j'ai une solution de l'équation maîtresse, j'ai une algèbre de Lie, et si j'ai une algèbre de Lie, je peux construire une équation de l'équation maîtresse. Bon. Alors, en quoi c'est intéressant? Ben, je vais reprendre mon problème de déformation, mais en termes de S. Je me donne une algèbre de Lie de départ, cette fois-ci j'appelle ça F0, donc c'est le problème. A, B, C. Je construis le S correspondant que j'appelle S0. C star A, C B, C C. Puisque c'est une algèbre de Lie, les F0 obéissent à l'identité de Jacobi. Et je vais donc. J'ai donc S0, S0 est égal à 0. Alors, avant. Donc l'idée maintenant, c'est qu'en fait, je vais perturber ça, je vais faire un développement perturbatif S0 plus epsilon S1 plus epsilon S2 plus carré, pardon, plus etc. Ah, analogue à ça. Et je vais regarder les conditions sur S1 puis sur S2, etc. Et on va voir qu'elles ont une interprétation très simple. Alors, avant d'interpréter ça, je vais introduire de la cohomologie. Je vais définir S0 d'une fonction quelconque des variables qui sont ici, CA et CSTARA, et donc en particulier, ce sera vrai pour S1, pour S2, etc. Je vais définir cet opérateur comme l'anticrochet avec F de S0. Alors, je prétends que comme S0 avec S0, c'est égal à 0, c'est un opérateur qui obéit à la propriété de dérivation, puisque c'est un anticrochet. Hein. Donc, si j'ai le produit FG, ben, l'anticrochet de S0 avec FG, ça va être l'anticrochet de S0 avec F fois G, plus l'anticrochet, plus avec éventuellement un signe, l'anticrochet de S0 avec G fois F. Hein. Donc ça obéit à cette propriété de dérivation. Mais en plus, je prétends que S0 carré est égal à 0. Et comment on voit ça? Ben, calculons. S0 carré de F, c'est, je l'ai dit, il faut d'abord prendre S0 sur S0 de F, c'est-à-dire S0 F. D'accord ? Alors, par l'identité de Jacobi pour l'anticrochet, c'est équivalent à 1 demi S0 S0 F. Hein, vous pouvez, si vous faites des permutations cycliques de ça, vous voyez qu'il y aura un terme où j'ai F ici, S0, S0, bon, que je peux mettre dans l'autre sens, Et puis j'aurai un terme où j'ai de nouveau FS0, S0. Donc j'ai deux fois ce terme-ci, en fait, et une fois ce terme-là. Donc, comme c'est égal à 0, Jacobi, je sais que je peux remplacer ça par ça. Et donc, en fait, vous voyez que si ceci est solution de l'équation maîtresse, ce qui est le cas, ça, c'est égal à 0. Et donc, en fait, j'ai une différentielle. Une différentielle, c'est un opérateur de dérivation dont le carré fait 0. Et quand on a une différentielle, on peut parler de cohomologie. C'est-à-dire que je peux considérer ce qu'on appelle l'écocycle, c'est-à-dire les solutions de S0, F égale à 0, où j'identifie deux solutions qui diffèrent par une solution triviale. Et une solution triviale, ben, si F est lui-même le S0 de quelque chose, ce qu'on appelle un cobord, comme S0 carré est égal à 0, c'est toujours une solution, ceci. Donc, mettons M. Donc ça, c'est des solutions, c'est ce qu'on appelle les solutions triviales. Et donc, j'identifie deux solutions et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de la cohomologie. Et en fait, dans notre cas, si vous regardez les formules qui définissent la cohomologie des algèbres de Lie, cohomologie et différentielle qui apparaît, qui est en fait Chevalet-Eilenberg. En fait, c'est la différentielle de Chevalet-Eilenberg qui joue pour les... Ceci, que j'ai introduit dans mes notations de physicien, c'est exactement la différentielle qui apparaît dans la cohomologie des algèbres de Lie. Bon, alors, je ne vous ai pas encore montré que c'était bien la différentielle qui contrôlait la déformation. Bon, ça commence à ressembler. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que tout le problème qu'on s'est posé, trouver les F1 qui satisfont tel qu'on maintienne Jacobi et identifier les F1 qui diffèrent par une solution triviale, c'est exactement le problème de la cohomologie de S0. La cohomologie de S0 dans l'espace des objets qui contiennent deux fantômes et linéaire en C star A. Alors C star A, c'est dans la représentation adjointe. Donc les mathématiciens notent ceci. Nous, on dira que c'est la cohomologie BRST en nombre de fantômes 0, mais les mathématiciens, peut-être, seront plus précis, vont dire que c'est la cohomologie de l'algèbre de Lie en degré 2, parce qu'il y a deux fantômes, il y a deux formes invariantes. Donc ils mettent un H2 là, l'algèbre de Lie, mais dans l'espace de la représentation définie par les C star, c'est la représentation adjointe. Donc c'est un espace vectoriel de la représentation adjointe. Bon, alors voyons que c'est vrai. Hein. Donc pour le moment, j'ai pas encore. Je vous ai dit que dès qu'on a un opérateur nilpotent différentiel, on peut introduire la cohomologie. J'ai pas démontré que c'était ça qui était relevant pour ceci. Mais dans les quelques minutes, l'idée est simple. Donc dans les quelques minutes qui restent, je vais vous montrer comment ça apparaît. Alors, on va déformer donc l'équation maîtresse. Donc, ce qu'on veut, c'est que S0 plus epsilon S1 plus epsilon carré S2, etc., obéissent à l'équation maîtresse. Epsilon carré égale à 0. À l'ordre epsilon 0, on retrouve l'équation maîtresse pour le point de départ qui est satisfaite. Qu'est-ce qu'on obtient à l'ordre 1 ? On obtient à l'ordre epsilon S0 avec S1 et S1 avec S0. Mais comme c'est symétrique, on obtient deux fois la même chose. Donc à l'ordre epsilon, j'obtiens S0 S1 est égal à 0. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai défini. L'action de la différentielle S0 sur S1 doit être nulle. Alors, on a aussi vu qu'il y a des solutions triviales de ça. C'est S1 est égal à S0 de K. S0 de quelque chose. Pardon. Les solutions triviales de mon problème de déformation formulé comme ça. Ça, c'est équivalent à dire que S1 est égal à S0K. Alors, oui, je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez à ce stade-ci me croire, et je vous laisse faire ça comme exercice. Si le S1 est obtenu par un changement de base, comme je l'ai écrit, en fait, il peut s'écrire comme ça, et K, ben, c'est très facile de deviner ce que K va être. Ce sera, il suffit de contracter les indices avec ce qu'il y a pour les contracter, lambda AB, CB. Donc, je prétends que la formule que je vous ai donnée pour le changement de base, ça se ramène à l'anticrochet de S0 avec K, où vous prenez K, ben, la matrice de changement de base, ben, c'était 1 plus lambda, c'était la perturbation par rapport à la matrice de changement de base. Et vous voyez, c'est un nombre de fantômes moins 1, mais l'anticrochet a un nombre de fantômes 1, donc ceci aura un nombre de fantômes 0, ce qui est nécessaire. Hein. En d'autres termes, trivial au sens de la déformation de l'algèbre de Lie, c'est trivial au sens de la cohomologie. Et être une solution, c'est être un cocycle au sens de la cohomologie. Donc on voit que ce qui est important pour les déformations cohérentes du premier ordre, c'est précisément la cohomologie pour les objets qui contiennent deux fantômes et un anti-champ, c'est-à-dire ceci, enfin deux fantômes. Bon. Et donc ça se ramène bien là, et donc c'est de la cohomologie, et je vous dis c'est de la cohomologie de l'algèbre de Lie. Et puis à l'ordre suivant, bon peut-être je ne vais pas faire l'ordre suivant, je vais vous le dire en mots, on peut montrer qu'à nouveau, enfin peut-être je vais l'écrire, donc l'ordre suivant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être S0 avec S2, doit tuer le terme qui vient de S1, S1. Donc un facteur près que j'écris pas. Et donc, supposons qu'on se soit donné une déformation cohérente du premier ordre, donc on connaît S1, S1, il faut que ceci soit exact, soit un cobord. Et alors ça me permettra de trouver S2. Et donc à nouveau, on peut montrer que S1, S1, en utilisant l'identité de Jacobi pour l'anticrochet, est bien un cocycle. Est-il un cobord? Ah ben ça, c'est de la cohomologie qu'il mesure. Donc les obstructions à continuer une déformation vont être également mesurées par la cohomologie de S0, mais cette fois-ci, puisque ça fait monter le degré de 1, l'anticrochet, H3. Mais donc vous voyez que le problème de déformation de l'algèbre de Lie, c'est un problème de cohomologie, ça les mathématiciens le savaient bien, mais c'est un problème de cohomologie qui fait intervenir des objets auxquels les physiciens qui font de la théorie quantique des champs de Young-Mills sont habitués. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Mais parce que bon, la cohomologie des algèbres de Lie, c'est un des sujets que les mathématiciens ont fortement étudié. Et donc, en utilisant les résultats mathématiques puissants sur les cohomologies d'algèbre de Lie, on peut, en déformant l'algèbre la plus simple, et donc en compliquant ces constantes de structure par des termes de ce type-là, construire toutes les algèbres cinématiques. Et donc ça a été fait en fait par le dernier orateur du cycle de séminaire, José Figueroa O'Farrill. Il ne parlera pas de ça, mais il a fait ça. On peut aussi montrer, je vous ai parlé de charge centrale, que le problème de trouver toutes les charges centrales, toutes les extensions centrales pour être plus précis, trouver des extensions centrales peut aussi se formuler dans ce cadre-ci. Simplement, c'est un autre, c'est toujours une cohomologie d'algèbre de Lie, mais au lieu d'avoir la représentation adjointe, c'est la triviale qui apparaît dans ce cas-là. Donc, je suis bien conscient que je n'ai pas tout démontré ici, mais peut-être l'objet de cet exposé sur les déformations et sur les algèbres systématiques était plus de vous montrer que c'est un sujet riche, qui fait intervenir des concepts mathématiques intéressants. C'est utile dans d'autres endroits en physique. Je vous ai donné un peu le parfum, mais en un sens, c'est un peu à l'écart par rapport à la construction qui va venir la semaine prochaine des théories de champs invariantes pour le groupe de Carroll. On va revenir à Carroll la semaine prochaine. Ici, j'étais J'ai parlé de choses que j'avais pas, dont je n'avais pas pu parler la toute première fois qu'on s'est vu, qui était de construire toutes les algèbres cinématiques. Et il y a des techniques mathématiques bien éprouvées, élégantes et puissantes qui permettent d'aborder ce problème et de compléter la classification tout à fait. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est un peu marathon, pour vous et pour moi aussi. Voilà, si vous avez des questions néanmoins, je dis pas ça pour que vous n'en posiez pas. Les questions sont toujours les bienvenues, soit maintenant, soit quand on se revoit la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vais revenir au groupe de Carole et on va voir comment construire des théories des champs qui sont invariantes pour ce groupe. Et ça a des intérêts divers. Et il y a des techniques assez intéressantes pour le faire. Voilà, ben, s'il n'y a pas de questions, merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.